Bonjour à tous. Alors, je vais donc faire une prédication sur la suite du livre de Ruth. On a commencé cette série la semaine passée avec Stéphane qui a traité le premier chapitre. Et je vais donc aujourd'hui traiter le deuxième chapitre. Avant de lancer le diaporama, j'aimerais vous faire une devinette. Je vous préviens, elle n'est pas facile. Vous allez essayer de deviner une personne. C'est un psychologue qui, dans les années 1940, a développé une théorie. Une théorie sur la satisfaction humaine, sur les motivations de l'homme. Est-ce que quelqu'un sait de quel psychologue je parle ? Plus fort ? Abraham Maslow, c'est ça. Bonne réponse. Donc, Abraham Harold Maslow, qui était un psychologue, il a recherché en fait ce qui se cachait derrière les motivations de l'homme. Il a mis à jour 5 groupes de besoins fondamentaux. On peut lancer le diaporama. 5 groupes de besoins fondamentaux. Le premier groupe, ce sont les besoins physiologiques. Ce sont les besoins vitaux. Boire, manger, dormir. Le deuxième groupe, c'est le besoin de sécurité, d'être protégé, d'avoir un toit, d'avoir un travail, par exemple. Le troisième groupe, c'est le besoin d'appartenance, comme celui d'appartenir à une famille, à un groupe, par exemple. Ce besoin d'appartenance comprend également un besoin affectif. Le quatrième groupe est le besoin de l'estime, ou le besoin de reconnaissance, le besoin de la confiance et du respect des autres, d'exister à leurs yeux. Et le dernier groupe, le cinquième, c'est le besoin d'accomplissement de soi, ou le besoin de réalisation. Les individus accomplis, ce sont des personnes qui se consacrent à des questions qui dépassent leur simple intérêt personnel. Elles ont le sentiment d'accomplir une mission. Et donc, voilà l'objet, enfin, un outil que l'on peut utiliser en psychologie. Et cet outil, d'après Maslow, est universel. On est tous concernés par ces besoins-là. Tous les hommes, partout dans le monde, peu importe notre culture, on est concernés par ces différents besoins. Lorsqu'un groupe de besoins est satisfait, un autre va progressivement prendre la place, selon cet ordre hiérarchique, d'où on appelle cet ensemble la pyramide de Maslow. Lorsqu'un besoin précédent n'est plus satisfait, il redevient prioritaire. Tous ces besoins sont continuellement présents dans la vie d'un homme. Ils sont continuellement présents dans notre vie à chacun. Mais certains se font sentir plus que d'autres à des moments donnés, à des moments particuliers de notre vie. Par exemple, une personne démunie de tout est capable de mettre en péril sa vie, de mettre en péril sa sécurité pour sa survie. Et c'est un peu ce que l'on va voir dans le livre de Ruth ce matin. Ruth est une femme de valeur à cause de son comportement. C'est la semaine dernière, Stéphane a traité le chapitre 1, Ruth, une femme de valeur à cause de sa foi, et il nous a laissé avec Ruth et Naomi, revenant du pays de Moab, revenant à Bethléem. Naomi était amère, les deux femmes sont veuves, elles ont tout perdu, elles reviennent démunies. Elles sont démunies, elles reviennent en Israël comme ça, dans cette situation. Je vous invite à lire donc dans le livre de Ruth, le chapitre 2. Et je commencerai à partir du verset 22 du chapitre 1. C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, du clan d'Élimélec, qui s'appelait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « « Vas-y, ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz, du clan d'Élimélec. Or, Boaz vint de Bethléem. Il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune fille ?» Cette jeune femme, plutôt. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau de pain dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea à satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour ramasser des épis. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez ramasser, sans lui faire de reproches. » Elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle battit ce qu'elle avait récolté. Il y eut environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui ? Où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, » dit-elle. Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, » lui dit-elle. « Il est l'un de ceux qui ont droit de rachat sur nous. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, « Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. » Naomi dit à sa belle-fille Ruth, « Il est bon que tu sortes avec ses servantes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habita avec sa belle-mère. Une histoire intéressante, très intéressante. Naomi et Ruth sont revenues de Moab, au début de la moisson de l'orge. Par amour pour Naomi, Ruth a accepté de quitter son père, sa mère, le pays de sa naissance, pour aller vers un peuple qu'elle ne connaissait pas auparavant. Cela signifiait qu'elle acceptait de devenir étrangère. Elle est veuve, tout comme Naomi. Toutes les deux ont perdu leur mari. Mais en plus de ça, Ruth est une étrangère. Elle cumule deux situations précaires. Une situation fragile. Au verset 11, Boaz raconte que depuis la mort de son mari, elle est venue, je vais relire ce verset, verset 11. On m'a raconté, on m'a apporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Ce verset nous rappelle donc que Ruth est une veuve. Ruth est également une étrangère, comme je vous l'ai dit. Le texte semble le souligner. On le voit tout d'abord au verset 22 du chapitre 1 que j'ai lu. Ruth, la Moabite. Au verset 2 du chapitre 2, Ruth, la Moabite, dit à Naomi. Ruth, la Moabite. Et le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs va dire au verset 6, c'est une jeune femme Moabite. Elle-même, Ruth va dire d'elle-même au verset 10, comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ? Ruth est une étrangère. Le texte semble insister sur cela. Elle est veuve et elle est étrangère. Étrangère en Israël, à l'époque des juges. Sébastien nous avait fait une prédication sur le livre des juges. C'était une période sombre, une période obscure. Le dernier verset du livre des juges dit ceci. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ruth est une étrangère, qui plus est une Moabite, un peuple non admissible en Israël. Stéphane nous l'a dit la semaine dernière. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, à partir du verset 4, on voit que ce peuple est non admissible en Israël. Elle est veuve, elle est étrangère, c'est une situation fragile, elle n'est pas admise en Israël et elle est dans une situation fragile, très fragile, une situation précaire. Elle n'a pas d'époux et elle est loin, très loin de sa famille. Cela signifiait inévitablement qu'il y aurait des manques dans sa vie, un déficit, de gros besoins dans sa vie. Et c'est là que je vais reprendre cette fameuse pyramide de Maslow. Ruth est une veuve. Elle a besoin de boire et de manger. Elle est revenue avec sa belle-mère Naomi, démunie du pays de Moab. Elles ont plus rien. Naomi le dit d'ailleurs au chapitre 1. Je suis revenue les mains vides. Elles sont démunies. Elles font face aux besoins physiologiques. Elles ont besoin de boire et de manger. Elles sont veuves, c'est-à-dire elles sont toutes seules. Elles n'ont personne, elles n'ont pas un mari ou un père de famille pour les protéger. Elles font face aux besoins de sécurité. Ruth est une étrangère. Elle est loin de sa famille. Elle n'a que pour seule famille en Israël, Naomi, sa belle-mère. C'est sa seule famille. Elle est éloignée de tout, de ses parents, de sa mère, de son père. Elle est donc une étrangère. Elle fait face aux besoins d'appartenance. Elle n'appartient pas encore au peuple d'Israël. Ruth a besoin également de reconnaissance. C'est une étrangère. Ceux qui sont étrangers le savent. Nous, en tant qu'étrangers dans un pays, on fait face au rejet. On fait face au manque de respect. On est peut-être sous-estimé, pas respecté. Elle va faire face, certainement. Elle a dû certainement faire face à cela. Et enfin, le besoin d'accomplissement personnel que je définissais par le fait justement d'accomplir une mission, je ne pense pas que simplement à partir de ce texte, on puisse dire que Ruth avait déjà conscience d'accomplir une mission qui la dépasse, qui dépasse ton simple intérêt personnel. Mais quand on prend un recul et qu'on regarde le livre de Ruth dans son intégralité et qu'on regarde la Bible et le plan du salut, on sait que Ruth participe à une mission extraordinaire. Mais là, elle n'en avait certainement pas conscience. Pour elle, ce qui était important, c'était d'abord de répondre aux besoins physiologiques, aux besoins de sécurité. Mais néanmoins, elle n'en avait pas conscience. Tous les voyants sont au rouge. Ruth est une étrangère, une veuve. Elle a des besoins. Elle est démunie.
tout comme sa belle-mère, Naomi. Les deux sont démunis. Leur priorité est de satisfaire à leurs besoins physiologiques, quitte à mettre en péril sa vie, elle qui est une étrangère dans un pays où elle n'est pas admise. Quelquefois, nous aussi, nous faisons face à une telle situation, une situation de détresse absolue, où nous avons l'impression d'être dans une voiture arrêtée sur le bord de la route, avec les feux de détresse allumés, dans l'attente d'une aide qui tarde à venir. Pour Naomi et Ruth, fort heureusement, cette aide ne va pas tarder à venir. Il arrive. Connaissez-vous ce film ? Quel film c'est ? Star Wars ? Quel épisode ? Comment ? J'ai cru l'entendre par ici, mais... Non ? C'est l'épisode numéro 4. Est-ce que vous connaissez le titre de l'épisode numéro 4 de Star Wars ? Plus fort ? Un nouvel espoir. Qui c'est qui a dit ça ? Très fort. Un nouvel espoir. Le titre de cet épisode 4. Dans la saga de Star Wars, dans l'épisode 4, il y a un personnage qui fait éruption. C'est le personnage principal. C'est Luke Skywalker. C'est lui qui est destiné à apporter l'équilibre dans la force. Et j'ai mis cette affiche parce que il me semble que l'on peut comparer Boaz avec Luke. Il est ce nouvel espoir. C'est lui qui va ramener l'équilibre dans la situation fragile des deux femmes. Tout d'abord, le texte nous apprend au chapitre 1 que cet homme s'appelle Boaz. Que signifie Boaz ? Boaz signifie « en lui est la force ». La force est avec lui. Boaz, on le voit au verset 1, c'est un homme puissant, c'est un homme riche. Boaz est un parent d'Élimélec, le mari de Naomi décédé. Boaz est du clan d'Élimélec. Boaz est du clan d'Élimélec. J'insiste parce que le texte semble insister là-dessus également, au verset 1 et notamment au verset 3. Il est du clan d'Élimélec et c'est un point important qui va faire la différence. Boaz, c'est quelqu'un qui révère l'Éternel. Dans une période qui est sombre, où le côté obscur a pris le pouvoir, Boaz est quelqu'un qui révère l'Éternel. On le voit au verset 4. Il dit à ses moissonneurs « Que l'Éternel soit avec vous ». Ils lui répondirent « Que l'Éternel te bénisse ». Au verset 12, en s'adressant à Ruth, il va dire « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Boaz est un homme qui révère l'Éternel. Ruth se retrouve dans l'un de ses champs. Il va l'autoriser explicitement à ramasser des épis. Au verset 9, « Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après mes servantes. » Il faut savoir qu'à cette époque-là, les serviteurs, en fait, les hommes coupaient les tiges et à leur suite, les femmes passaient et ramassaient les épis pour les mettre en gerbe, pour les assembler. Et bien plus, Boaz donc va donc autoriser Naomi à aller à la suite de ses servantes. Et au verset 15, il va même aller plus loin. Il va donner cet ordre à ses serviteurs. Laissez-la ramasser des épis entre les gerbes. Cela signifie qu'il lui donne un privilège encore supérieur à ce qui lui avait été donné au départ. Au verset 9, Ruth est probablement autorisée à marcher avec les serviteurs de Boaz au moment où les gerbes sont formées. Ruth a également le droit de boire avec les serviteurs de Boaz. Au verset 9, elle participe même au repas. Elle mange à satiété et garde même le reste pour Naomi, sa belle-mère. On le voit au verset 14 et plus tard au verset 18. Elle apporte les restes à sa belle-mère. En une journée de travail, elle a récolté 22 litres d'orge. De quoi satisfaire aux besoins physiologiques d'elle et de sa mère, de sa belle-mère. Le verset 8 est un verset particulier. Il m'a semblé énigmatique la première fois que je l'ai lu. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. » Ce verset ressemble beaucoup à un autre verset, le verset 22, où Naomi va dire à Ruth, « Il est bon que tu sortes avec ses servantes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » A priori, on pourrait se dire, Boaz veut la garder près de lui, près de son champ. Peut-être qu'il a déjà des idées derrière la tête, peut-être qu'il envisage des choses, il a des projets. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est pour une autre chose, une autre raison. Je pense que c'est lié à la sécurité de Naomi. Tout d'abord, il l'appelle « ma fille ». « Écoute, ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. » Cela, voilà, c'est lié, je pense que c'est lié à la sécurité de Naomi et à sa protection. Comme je vous l'ai dit, Naomi est une Moabite, une étrangère, qui n'a pas le droit de citer en Israël. Et elle arrive à Bethléem à une période sombre, une période à risque pour elle. Et Boaz, en lui demandant de rester dans son champ, veut en quelque sorte la protéger. Et on retrouve encore à deux autres endroits cet aspect de protection dont fait part Boaz. Au verset 9, il va dire « J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. » Au verset 15, il va ordonner à ses serviteurs qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes, quelques épis, et vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproches. Boaz satisfait quelque part aux besoins de sécurité. En gardant Ruth dans son champ, il sait qu'elle est en sécurité. Il sait qu'elle ne risquera rien. Elle est en sécurité dans le champ de Boaz. Son besoin de sécurité est en partie satisfait. Parce que tant qu'elle est dans le champ de Boaz, il ne lui arrivera rien. Dans le champ de Boaz, Ruth n'est plus une étrangère. Elle a les mêmes avantages que les serviteurs de Boaz. On a envie de dire qu'elle est comme l'une de ses servantes. D'ailleurs, c'est ce qu'elle va dire au verset 13. « Car tu m'as consolée et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Ruth est comme l'une des servantes de Boaz. Elle appartient à un groupe, le groupe des servantes de Boaz, avec lequel elle va rester jusqu'à la fin de la moisson. Son besoin d'appartenance est en partie satisfait. Elle appartient à un groupe. Elle, dans le champ de Boaz, Ruth existe. Elle est respectée. Elle a un statut. Elle est connue. Elle est reconnue. Ce n'est plus une simple étrangère. Ce n'est plus la Moabite. Boaz a une certaine estime pour elle à cause de ce qu'elle a fait pour Naomi, que l'on voit au verset 11. Merci Jean-Marc. Donc, je disais, voilà, Boaz a un certain estime pour Ruth à cause de ce qu'elle a fait pour Naomi. On le voit au verset 11. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Ruth, dans le champ de Boaz, elle est reconnue. Son besoin d'estime est satisfait. Elle est reconnue. Son besoin de reconnaissance est satisfait. Je ne pense pas qu'on puisse dire que son accomplissement personnel est réalisé dans ce passage-là, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Ruth va participer à une mission qui dépasse même ce qu'elle est, qui dépasse même son intérêt personnel. Nous le savons, si nous lisons tout le livre de Ruth, elle est l'arrière-grand-mère du roi David. David qui est de la lignée du Messie, Jésus-Christ. Les voyants ne sont plus au rouge. Boaz est ce nouvel espoir pour Naomi et Ruth. C'est au travers de lui que leur situation fragile va s'affermir, se stabiliser. Manifestement, Boaz a accordé toutes ses faveurs à Ruth à cause de ce qu'elle a fait pour Naomi. Au verset 11, comme je l'ai dit, Naomi qui est sa parente. Néanmoins, Boaz est en action, mais il n'est pas le seul en action dans cette histoire. Loin de là. Et c'est la parole de Naomi au verset 20 qui va nous mettre sur la bonne piste. C'est le verset central du livre de Ruth. C'est un verset clé. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, dit encore Naomi. Il est l'un de ceux qui ont le droit de rachat sur nous. Naomi discerne l'action de Dieu dans l'enchaînement des événements. Ce n'est pas un hasard. Tout ce qui s'est passé, ce n'est pas un hasard. Tout du moins, c'est un hasard avec un grand D, comme le dit souvent un frère de l'Assemblée. Un hasard conduit par l'Éternel. Elles ont eu besoin de l'aide de Dieu. Tout d'abord, la première chose qui va tout déclencher, c'est une loi de l'Éternel. C'est l'autorisation de glaner qu'ont les personnes pauvres, c'est-à-dire l'étranger, la veuve et l'orphelin. On retrouve cette loi dans Lévitique 19, verset 9, dans Lévitique 23, verset 22 et dans Deutéronome 24, verset 19. Les propriétaires terriens devaient abandonner les restes de leurs champs qui ont été oubliés par les moissonneurs pour les pauvres, la veuve, l'orphelin et l'étranger. Et c'est à cause de cette loi. Ruth en avait conscience. Elle demande à sa belle-mère, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ. » Et on le voit également au verset 7 où elle demande, « Permettez-moi de glaner, c'est ramasser des épis abandonnés. » C'est la loi de l'Éternel qui va déclencher toute cette histoire. C'est parce qu'elle avait ce droit en Israël. Ruth se retrouve par hasard dans le champ de Boaz. Dans la version que j'ai lue, la version second 21, au verset 3, il est dit « Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz. » Dans d'autres versions, il est dit « Par hasard, elle se trouva dans le champ de Boaz. » C'est un hasard, mais un hasard conduit par Dieu. Dieu est au contrôle de la situation. Dieu est souverain sur le hasard. Elle arrive, conduite par Dieu, sur le champ de Boaz. Boaz, qui n'est pas n'importe qui, Boaz est un proche parent de Naomi. C'est un homme qui est à même capable de subvenir à leurs besoins, comme nous l'avons vu. C'est un homme qui révère Dieu. C'est un homme, pendant cette période des juges qui était sombre, c'était un homme qui craignait Dieu. Et surtout, c'était un proche d'Élimélec. Je l'ai souligné tout à l'heure. C'était un proche d'Élimélec. Et de ce fait, il avait le droit de rachat sur Naomi. Sur Naomi et Ruth. Ce droit de rachat, c'est ce qu'on appelle la loi de Lévira. Stéphane l'a mentionné dans sa prédication la semaine dernière, parce que Naomi, il fait mention, mais sur la tonalité de la désespérance dans le chapitre 1. Et on retrouve cette loi dans le Deutéronome, chapitre 25, versets 5 à 10. Et notamment, on retrouve cette loi dans un passage du Nouveau Testament. Et avant de vous donner une illustration de ce passage, j'aimerais remettre cette pyramide de Maslow. Tous ces besoins qui ont été satisfaits pour ces deux femmes l'ont été par Boaz, c'est vrai, mais on voit que c'est Dieu qui a conduit toutes choses. Le premier des besoins de ces femmes est Dieu. Elles ont eu besoin de l'aide de Dieu. Voici la pyramide revisitée de Maslow. Elles avaient besoin de l'aide de Dieu. Elles avaient besoin de l'aide de Dieu d'une part par sa loi, l'autorisation de glaner, le droit de rachat que je vais illustrer juste après, conduit par lui. Dans le champ de Boaz, Ruth, Dieu est au contrôle, c'est lui qui a tout conduit. En effet, une femme restée veuve sans enfant devait être épousée par son beau-frère afin de donner une descendance à son frère. Si la veuve n'avait pas de beau-frère, c'était le parent le plus proche qui devait l'épouser. Grâce à cette loi, la situation des deux femmes pouvait alors changer définitivement. Parce que si elles étaient rachetées par Boaz, leur situation fragile serait complètement renversée, complètement transformée. Cette loi divine permettra un dénouement heureux tout au long de ce livre. Et vous le verrez par la suite. L'Éternel est bon. C'est ce que Naomi dit. L'Éternel qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. On l'a encore rappelé ce matin. L'Éternel est riche en bonté dans Éphésiens. L'Éternel est bon. Naomi mentionne cette loi avec plein d'espérance, cette loi du Lévirat. Dans l'enchaînement des événements, elle a reconnu la main de Dieu, comme je vous l'ai. On va passer à la dernière diapositive. Elle a reconnu la main de Dieu. Elle a reconnu que c'est avec l'aide de Dieu qu'elles ont pu subvenir à leurs besoins. L'aide de Dieu au travers de Boaz. C'est Dieu qui leur vient en aide. Et un autre verset que je trouve très important dans le texte nous aide à comprendre également cela. C'est le verset 12. Et c'est Boaz qui s'adresse à Naomi. « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ruth est venue se réfugier sous les ailes de l'Éternel. En titre, j'ai mis Ruth, une femme de valeur à cause de son comportement. Le comportement de quelqu'un, d'une personne, c'est l'ensemble de ses réactions, des réactions que l'on observe chez elle quand elle est placée dans son milieu de vie et dans des circonstances particulière. J'aurais pu mettre dans ce message en avant l'ensemble des réactions de courage de Ruth, de bravoure de Ruth, de vaillance dont elle a fait preuve tout au long du texte. Elle a travaillé sans relâche du matin jusqu'au soir afin de subvenir à ses besoins et surtout à ceux de sa belle-mère. Mais avant tout, ce que je veux mettre en avant, c'est le fait que Ruth soit venue à l'ombre de l'Éternel, sous la protection de l'Éternel. Par amour pour sa belle-mère, elle a quitté sa famille, son pays de naissance. En faisant cela, elle est venue se réfugier sous les ailes de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'était ce dont elle avait besoin. C'est ce dont nous avons tous besoin. Nous avons besoin de Dieu. Certes, les autres besoins sont importants, et c'est ce que Maslow nous dit. Ces besoins sont universels, ils nous concernent tous. Mais le besoin de Dieu, ce besoin-là, il nous concerne tous en premier lieu. Nous sommes tous concernés. Tout d'abord, quand nous passons par des moments difficiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Naomi et Ruth, quelquefois, nous nous trouvons dans des situations de détresse, des situations où nous n'avons plus le contrôle. D'ailleurs, nous n'avons jamais le contrôle. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Mais il y a des situations parfois où nous sommes dans une détresse peut-être matérielle, manque du minimum vital, manque de sécurité, nous sommes rejetés peut-être. Cet enseignement nous encourage à placer notre confiance en Dieu, le Dieu d'Israël, en l'Éternel, le Dieu d'Israël, lui qui est à même capable de nous secourir. Plaçons notre confiance en Dieu. Une autre application, peut-être, si nous sommes déjà sous la protection de l'Éternel, si nous avons accepté l'Éternel comme notre Dieu, nous avons cette responsabilité envers les autres, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont dans le besoin, à l'image de Boaz. Boaz est un homme qui révère Dieu. Et dans la situation de l'époque, il pourvoit aux besoins de Ruth. Nous avons, nous aussi, cette responsabilité. Soyons attentifs. Regardons qui de nous est dans une situation difficile, une situation de détresse. Venons lui en aide. C'est au travers de ses enfants que l'Éternel répond aux besoins d'autres enfants ou d'autres personnes dans la détresse. Et pour finir, une application, et cette application beaucoup plus générale, Je vais, Je vais vous lire une citation de Blaise Pascal avant. Il y eut autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace vide qu'il essaie de remplir inutilement avec tout ce qui l'environne, recherchant dans les choses absentes le secours qu'il n'obtient pas dans les choses présentes. Or, toutes sont inadéquates, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire Dieu lui-même. Nous avons tous besoin de Dieu. La Bible nous révèle que nous sommes tous en situation de détresse. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous, comme le dit si souvent à l'instant, nous sommes des mendiants. Nous sommes tous des mendiants de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dans cette salle, que vous soyez chrétien ou non chrétien, nous avons tous ce besoin. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons besoin d'être en communication, en relation avec notre Créateur, le Dieu d'Israël. Et donc cette pyramide n'était pas complète. Actuellement, elle est complète parce que la base, le fondement de toute chose, c'est Dieu. C'est Dieu qui répond à ce besoin spirituel dont nous avons besoin. Nous sommes pécheurs et nous avons besoin d'être graciés. La Sainte Cène nous l'a rappelé et cette citation de Blaise Pascal nous le rappelle également. Il y a un bonheur après lequel on court. Tout homme court derrière ce bonheur. Les mendiants, ceux qui sont rassasiés, ce sont ceux qui sont ici et qui savent que c'est Dieu qui satisfait à leurs besoins. D'autres mendiants qui courent, qui cherchent, sont dans le monde et cherchent ailleurs ce besoin, mais n'arrivent pas à le combler parce que ce besoin ne peut être comblé que par Dieu qui est celui qui est l'être infini, l'être qui nous aime par-dessus tout, celui qui est riche en bonté. Voilà. Amen.